Alors, je répète, Sadprem, la genèse du surhomme, le moi le plus grand, et c'est chapitre 9. Qu'est-ce que ce moi plus grand? En fait, le moi a toujours été grand, autant demander qu'est-ce que cette lune plus grande. Parce que nous voyons ce premier quartier, puis ce deuxième, et nous disons, dans notre vision géocentrique, que la Lune grandit. Le monde n'arrive pas, et rien n'arrive. C'est nous qui arrivons peu à peu à la vision complète. Et plus cette vision s'arrondit, plus le monde touche à la perfection qu'il a toujours été. Ce tout, ce grand tout, des sages en ont eu la vision et quelques rares poètes ou penseurs. Tout ceci est Brahman immortel et rien d'autre. Brahman est devant nous, Brahman est derrière nous, et au sud et au nord, et en dessous et en dessus. Il s'étend partout. Tout ceci est Brahman seul, tout ce magnifique univers. Alors, il y a un nombre 1, Mudaka Upanishad 2, 12. Tu es l'homme et la femme, et le garçon et la fille. Vieux et usé, tu marches penché sur ton bâton. Tu es l'oiseau bleu et le vert, et celui aux yeux écarlates. Tu es cela, ô Vetaketu. Et ce grand tout qui est en nous, il a rayonné au sommet des consciences, laissé quelques traces hiéroglyphiques au mur de Thèbes, et nourri les initiés d'ici et là. Parfois, nous sommes entrés dans un flamboiement blanc au-dessus des mondes, où dans un éclair, nous avons dissous le petit moi émergé dans une conscience cosmique. Et tout cela n'a rien changé au monde. Nous ne tenions toujours pas le fil qui reliait cette vision à cette terre et ferait un monde nouveau, avec un nouveau regard. Nos vérités restaient fragiles, la terre restait rebelle. Et elle avait raison. Pourquoi se plierait-elle aux illuminations d'en haut si cette lumière-là ne touche pas sa matière, si ce n'est pas celle qui voit et elle qui s'illumine? En vérité, la sagesse est très sage et l'obscurité de la terre n'est pas une négation de l'esprit, pas plus que la nuit n'est qu'une négation du jour. Elle est une attente et un appel de lumière. Et tant que nous n'aurons pas appelé la lumière là, pourquoi se dérangerait-elle de ses sommets? Tant que nous n'avons pas orienté notre moitié nocturne vers son soleil, pourquoi s'emplirait-elle de lumière? Si nous cherchons la totalité solaire sur les sommets du mental, nous aurons la totalité là, dans une jolie pensée. Si nous cherchons dans le cœur, nous aurons la totalité là, dans une tendre émotion. Si nous la cherchons dans la matière et à chaque instant, nous aurons la même totalité dans la matière et à chaque instant de la matière. Il faut savoir où l'on regarde. On ne peut pas raisonnablement trouver la lumière dans ce que l'on regarde pas. Et peut-être, après tout, nous apercevrons-nous que cette terre n'était pas si obscure. C'était notre regard qui était obscur, notre absence d'être qui faisait l'absence des choses. la résistance de la terre est notre propre résistance et la promesse d'une vérité solide. Une innombrable éclosion d'arc-en-ciel dans les myriades incarnées au lieu d'un flambement vide sur les hauteurs de l'esprit. Mais le chercheur du nouveau monde n'est pas parti en ligne droite dans sa quête. Il n'a pas fermé ses portes, pas rejeté la matière, capitonné son âme. Il a promené sa quête partout avec lui, sur les boulevards et dans les escaliers, dans la foule et l'obscurité, vide des millions de gestes pour rien. Il a mis de l'être dans tous les terrains vagues, fait brûler son feu dans toutes les vanités et attisé son besoin à l'inanité même qui l'étouffait. Il n'était pas une petite concentration pointue qui s'en allait tout droit vers les hauteurs, qui s'endormait dans la paix blanche de l'esprit. Il était ce chaos et cette cohue et cette errance à droite, à gauche, dans rien. Et il tirait tout dans son filet. Les montées et les descentes, les noirs et les moins noirs, et les soi-disant blancs, les chutes et les rechutes. Il tenait tout dans sa petite circonférence, avec un feu au centre, un besoin de vrai dans tout ce chaos, un cri d'appel dans le rien. Il était un circuit enchevêtré, un interminable méandre dont il ne savait rien, sauf qu'il promenait son feu là et là aussi, son feu pour rien et pour tout. Et il n'attendait même plus rien de rien. Il était seulement comme une douceur de brûler, comme si ce feu était le but en soi, l'être dans tout ce vide, la seule présence dans cette immense absence. Ça finissait même par devenir comme un amour tranquille, de rien, de tout, ici et là. Et peu à peu, ce rien s'allumait, ce vide prenait feu à son regard, cette futilité s'animait d'une petite chaleur semblable. Et tout commençait à répondre. Le monde commençait à vivre partout, à luire partout, dans le noir, dans le blanc, dans le haut, dans le bas. C'était comme une naissance partout, mais infinitésimale, microscopique, un poudroiement de petites vérités qui dansaient ici et là, dans les faits, les gestes, les choses, les rencontres. On aurait même dit qu'il venait à sa rencontre. C'était une étrange multiplication, une sorte de contagion dorée. Peu à peu, il entrait dans tout. Mais un bizarre tout, qui n'avait rien d'une conscience cosmique, ni transcendante, ni éclatante, et qui pourtant était comme un million de petits éclatements d'or, fugitifs, insaisissables, moqueurs presque, peut-être, faudrait-il dire, une conscience microscopique et chaleureuse. Une douceur de rencontre subite, une éclosion de reconnaissance, une bouffée de tendresse incompréhensible, comme si ça vivait, vibrait, répondait dans tous les coins et tous les sens. Étrangement, quand il y avait une question, un doute, une incertitude de quelque chose ou de quelqu'un, un problème d'action, une anxiété de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, on aurait dit qu'il recevait une réponse dans les faits. pas une illumination, pas une inspiration, une révélation, ni une pensée, rien de tout cela, une réponse matérielle dans toutes les circonstances. Comme si la terre elle-même, la vie elle-même, se mettait à répondre. Comme si les circonstances elles-mêmes venaient le prendre par la main pour lui dire « Tu vois ?» Et pas de grandes circonstances, pas d'éclat sensationnel, de tout petits faits. Le temps d'aller d'un bout de la rue à l'autre, et tout d'un coup, une chose venait à lui, la personne, la rencontre, l'argent, le livre, le fait inattendu, la réponse vivante. Ou au contraire, quand il espérait tant cette nouvelle, s'il n'était pas encore guéri de la maladie de l'espoir, quand il attendait cet arrangement, cette paix tranquille, cette solution claire, tout d'un coup il sombrait dans un chaos encore plus grand, comme si tout se mettait de travers, les gens, les choses, les faits, où il tombait malade, était victime d'un incident. Rouvrait la porte à une vieille faiblesse, et semblait reprendre une fois de plus le vieux circuit de la souffrance. Et puis, 2 heures ou 2 jours ou 2 mois après, il s'apercevait que cette adversité était exactement la chose qu'il fallait. Ce qui conduisait par un détour à un plus vaste qu'il ne l'avait prévu. Que cette maladie purifiait sa substance, brisait une fausse course et le ramenait allégé sur le chemin ensoleillé. Que cette chute démasquait des vieux repères et clarifiait son cœur. Que cette rencontre fâcheuse était une perfection d'exactitude pour faire surgir tout le réseau de possibilités nouvelles ou simplement d'impossibilités à vaincre, et que tout préparait minutieusement sa force, son élargissement, sa rapidité extrême par un million de détours, tout le préparait au tout. Alors, il commença à entrer dans une succession de petits miracles incroyables, d'étranges hasards, de coïncidences inquiétantes, comme si vraiment tout savait. Chaque chose savait ce qu'il fallait faire et aller droit à son but microscopique, au milieu d'un million de passants et de faits divers. Le chercheur commence à ne pas croire. Il hausse les épaules et passe outre. Puis, il ouvre un œil. Il ouvre encore un œil de doute. Et doute de son émerveillement. C'est d'une telle exactitude microscopique, d'une telle précision si fabuleusement incroyable, au milieu de cet encroisement gigantesque de vie et de choses et de circonstances, que ce n'est pas possible. C'est comme un éclatement de savoir total qui embrassait d'un seul coup cette fourmi dans la grande rue et les milliers de passants et toutes leurs lignes de déplacement, toutes les circonstances particulières, passé, présent, à venir, pour faire cette conjonction unique, cette incroyable petite seconde, juste où tout s'accorde, concorde, et inévitablement, et donne l'unique réponse à une unique question. Puis, les faits se répètent, les coïncidences se multiplient, le hasard peu à peu dévoile un innombrable sourire. Ou peut-être un autre moi, un plus grand moi, qui connaît sa totalité et chaque fragment de sa totalité et chaque seconde de son monde, autant que notre corps connaît le moindre frémissement de ses cellules. Et cette mouche qui passe et ce rythme de son cœur. Alors, le chercheur commence à entrer les yeux grands ouverts dans un innombrable émerveillement. Le monde est un corps unique, la terre une seule conscience qui se meut, mais un corps dont la conscience ne serait pas centrée dans quelques cellules grises là-haut. Une innombrable conscience partout centrée et aussi totale dans cette petite cellule éphémère que dans ce geste qui va bouleverser la destinée des nations. Et chaque point, la conscience répond à la conscience. Le chercheur a quitté les petites vérités pointues du mental, les lignes géométriques et dogmatiques de la pensée. Il entre dans une rondeur de vue indisible, une vérité pleine où chaque fragment a son sens et chaque seconde son sourire. Chaque obscurité sa lumière, chaque dureté sa douceur qui attend. Il découvre à tâtons le puits de miel couvert par le roc. Rigveda 2, 24, 4. Chaque chute est un degré de l'élargissement, chaque pas une éclosion de l'inévitable efflorescence, chaque adversaire un levier du futur. Le mal est une faille dans notre cuirasse par où brille une flamme d'amour pur qui comprend tout. Alors, je voudrais terminer cette lecture par un extrait en français du poème de Sri Aurobindo, The Life Events. Moi, la terre, j'ai un pouvoir plus profond que les cieux. Ma douleur solitaire surpasse ses joies roses. Elle est ma rouge semence amère des septuples extases. Mon épaisseur est peuplée d'échos d'une voix lointaine. Par moi, l'ultime fini, brûlant, s'élance. Pour toucher l'ultime inconnu de l'infini, l'éternel est brisé en petite vie fugitive et la divinité murée dans la pierre et la boue. Sri Aurobindo. Alors, je remets cette lecture au pied de Sri Aurobindo et Douce Mère, après avoir lu ce que Satprem a lu à Mère en 1969. C'est écrit, je crois, dans l'agenda, où il lisait à Mère des extraits régulièrement, et Mère entrait dans une transe où il lisait son livre La genèse du surhomme. Alors, ce livre a été édité, il a fini son livre plus tôt à Pondichéry le 20 août, 13 novembre 1970. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'à la fin de son livre, il dit « Alors, la vérité sera, parce qu'elle est simple comme un enfant et qu'elle répond au moindre appel et elle fera tout pour nous. » Merci à Sadprem pour ce livre merveilleux qu'il a écrit sous la guidance de Sri Aurobindo. Merci, douce mère. Merci, Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi.